Les deux vives voix avec Pascal Paradou, du lundi au jeudi à 13h30 TU sur RFI.
Il est midi en temps universel, une heure de plus ici à Paris.
RFI midi.
Le grand journal international. Bonjour David Delos.
Bonjour Clotilde, bonjour à tous. À la une de l'actualité, Israël accusé de crimes environnementaux. Beyrouth accuse l'État hébreu d'avoir pulvérisé du glyphosate sur des villages libanais pour créer de facto des zones de tampons à la frontière. L'ONU s'inquiète des conséquences sur l'environnement et sur les populations. Narges Mohammadi a entamé une grève de la faim. La prix Nobel de la paix 2023 est à l'isolement dans une prison iranienne. Elle a cessé de s'alimenter pour obtenir la visite de ses avocats et de ses proches. Les Jeux Olympiques d'hiver ont déjà commencé en Italie. Dans une heure, entrée en lice des hockeyeuses françaises face à l'Italie. Après une qualification au forceps, les Bleus entament le tournoi avec beaucoup d'ambition.
Beyrouth s'apprête à déposer aux Nations Unies une plainte contre Israël.
L'État hébreu est accusé d'avoir pulvérisé dimanche 1er février des substances chimiques au-dessus de plusieurs villages frontaliers du Liban Sud. Le président libanais, Joseph Aoun, a dénoncé un crime environnemental et sanitaire à l'encontre des Libanais et de leurs terres. De son côté, la FINUL, la force de l'ONU déployée au Liban, a regretté une activité inacceptable et contraire à la résolution 1701, texte qui prévoit une cessation des hostilités entre les deux pays. Paul Ralifet, vous êtes notre correspondant à Beyrouth. Quelle est la substance pulvérisée par les avions israéliens et quels peuvent être ses effets ?
David, les échantillons de terre et d'eau prélevés par l'armée libanaise et analysés dans des laboratoires spécialisés ont montré la présence d'un puissant herbicide, le glyphosate. Les ministères de l'Agriculture et de l'Environnement indiquent dans un communiqué que certains échantillons présentent une concentration supérieure entre 20 et 30 fois au niveau habituellement admis par les normes internationales. Le communiqué indique que cette substance risque d'endommager le couvert végétal dans les zones ciblées, avec des répercussions directes sur la production agricole, la fertilité des sols et l'équilibre écologique. Les deux ministères dénoncent un écocide et mettent en garde contre les risques sanitaires et environnementaux potentiels susceptibles d'affecter l'eau, les sols et la chaîne alimentaire.
Paul, les villages qui ont été ciblés sont presque entièrement détruits, ils ont été vidés de leur population. Quel est le but de répandre ce type de substances chimiques dans ces zones désertes ?
Cette action s'inscrit parfaitement dans la stratégie israélienne de créer de facto une zone tampon frontalière. D'ailleurs, les dirigeants israéliens ne cachent pas cet objectif qui leur paraît le plus efficace pour éloigner le Hezbollah de la frontière. C'est pour cette raison qu'Israël empêche la reconstruction de ces villages presque entièrement détruits, vous l'avez dit. Mais cela n'a pas dissuadé de nombreux habitants à continuer à se rendre dans leurs champs pour essayer d'y cultiver la terre. L'utilisation de ce type de substance a pour but de briser durablement le lien entre l'habitant et sa terre. C'est dans cette optique d'ailleurs que l'armée israélienne a utilisé pendant la guerre des bombes à sous-munitions et du phosphore blanc dans ces mêmes régions.
Paul Khalifel, le correspondant de RFI à Beyrouth. Jean-Noël Barrot, lui, est arrivé à Damas tout à l'heure. Première étape d'une tournée régionale qui doit conduire le chef de la diplomatie française en Irak cet après-midi et au Liban demain. Une tournée qui intervient au moment où la France doit repenser la lutte anti-djihadiste et réévaluer la menace terroriste tout en anticipant les conséquences d'un conflit entre les États-Unis et l'Iran.
On va en reparler dans une dizaine de minutes avec notre invitée Stéphanie Coury, journaliste au quotidien libanais L'Orient le Jour. On l'a appris hier soir dans la soirée David, Narges Mohammadi a commencé une grève de la faim.
Narges Mohammadi, c'est l'une des grandes figures de l'opposition au régime iranien, lauréate du prix Nobel de la paix en 2023. Cette militante des droits humains a été arrêtée à plusieurs reprises depuis 1998. Elle est à nouveau détenue depuis le mois de décembre. Guilhem Deltaï, bonjour.
Bonjour David.
On l'a appris hier, mais ça fait plusieurs jours que Narges Mohammadi a commencé cette grève de la faim.
Oui, ça fait 4 jours désormais que Narges Mohammadi a cessé de s'alimenter. Sa famille, qui vit en France, l'a appris par un ancien co-détenu, une personne qui vient juste de sortir de la prison de Mashhad dans l'est de l'Iran. Car Narges Mohammadi est détenue en isolement. Elle n'a plus eu de contact avec sa famille depuis le 14 décembre. C'était 2 jours après son arrestation. C'est pour protester contre ces conditions de détention que la lauréate du prix Nobel de la paix a commencé cette grève de la faim. Aucun contact avec sa famille, aucune visite autorisée en prison. Même ses avocats ne peuvent s'entretenir avec elle, dénonce Shirin Ardakani, qui représente sa famille en France. En près de 30 ans de militantisme, Narges Mohammadi a été arrêté 14 fois en décembre. C'est lors de funérailles d'un avocat spécialiste des droits de l'homme où elle avait pris la parole qu'elle a été violemment interpellée. Elle était déjà en prison donc quand a éclaté le récent mouvement de contestation réprimé dans le sang par le régime. Mais pour ses soutiens, David, son isolement vise à taire sa voix dans un contexte de répression accrue.
Guilhem Deltaï, merci Guilhem pour toutes ces précisions. Et puisqu'on parle de l'Iran, sachez que Téhéran a bien rendez-vous avec les États-Unis. 3 semaines après la répression sanglante du mouvement de contestation, 7 mois après la guerre de 12 jours et les frappes israéliennes et américaines sur les installations nucléaires, eh bien, les négociateurs iraniens et américains doivent se retrouver demain à Oman pour un premier round de négociations autour du programme nucléaire du régime des Mollahs.
Les pourparlers d'Abu Dhabi, eux, n'ont pas permis beaucoup d'avancées pour le moment sur le dossier ukrainien.
C'était le deuxième jour du deuxième cycle de discussions entre les envoyés de la Russie, de l'Ukraine et des États-Unis. Pas beaucoup de progrès en effet, sauf l'annonce d'un nouvel échange de prisonniers. 157 détenus de chaque camp vont pouvoir rentrer chez eux. Un peu plus tôt, l'émissaire du Kremlin avait critiqué, je cite, « des instigateurs de la guerre en provenance d'Europe et qui entravent le processus de paix ».
Aux États-Unis, licenciement en masse au sein d'une institution de la presse américaine, le Washington Post.
On parle d'un quotidien emblématique, vieux de près de 150 ans, 76 prix Pulitzer au compteur. Son propriétaire, le multimilliardaire Jeff Bezos, dit vouloir sécuriser l'avenir du journal. Alors il va licencier des centaines de journalistes, dont des correspondants à Jérusalem et en Ukraine. François-Damien Bourgerie.
Le service des sports, des livres, du podcast, des pages locales ou de l'infographie, mais aussi une grande partie des correspondants à l'étranger, dont tous ceux couvrant le Moyen-Orient. Le plan de licenciement mené au sein du Washington Post est drastique. Le nombre de suppressions de postes n'a pas été communiqué, mais selon le New York Times, environ 300 journalistes sur 800 sont concernés. Tout le monde est en deuil, témoigne Sally Quinn, contributrice du Washington Post, interrogée par CNN.
Depuis un an, ce n'est qu'une suite d'enterrements, des gens licenciés, des gens qui démissionnent. Ce qui se produit pour le Washington Post est tout simplement tragique. Tout le monde est dans le même état. Ce n'est pas que moi, ce ne sont pas que les gens du Post, c'est tout le journalisme.
Selon la direction, cette restructuration vise à réformer un journal qu'elle qualifie d'une autre époque et doit sécuriser son avenir. Un quotidien qui, d'après le Wall Street Journal, a perdu 100 millions de dollars en 2024, mais aussi de nombreux abonnés. La faute au rapprochement entre Jeff Bezos et le président Donald Trump. Pour rappel, en janvier 2025, le propriétaire du journal était apparu au premier rang lors de l'investiture du républicain.
Justice a été faite, ce sont les premiers mots de Tom Félix à son retour en France. L'homme de 34 ans est arrivé ce matin tôt à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. Tom Félix a passé plus de 900 jours dans les geôles de Malaisie pour détention et trafic de stupéfiants. Crime pour lesquels il risquait la peine de mort, mais dont il a finalement été acquitté il y a 2 jours.
La politique en France avec un nouveau candidat déclaré à gauche.
Il s'agit de Jérôme Guedj, député socialiste de l'Essonne, département dont il préside également le Conseil Général. Raphaël Delvolvé, Jérôme Guedj entend incarner une gauche modérée en 2027.
Plus qu'une candidature socialiste, c'est une candidature anti-mélenchoniste. Jérôme Guedj sur France Inter ce matin.
Je suis aujourd'hui candidat pour porter la voix d'une gauche républicaine, universaliste, laïque. Je souhaite qu'un candidat de gauche puisse séduire donc, au-delà des rangs de la gauche.
Un positionnement affirmé notamment depuis les attentats du 7 octobre et les hésitations d'LFI à parler d'une attaque terroriste. Jérôme Guedj avait alors qualifié Jean-Luc Mélenchon de salopard antisémite et refusé l'étiquette Nouveau Front Populaire aux législatives 2024. C'est radical, au point de refuser de participer à la primaire de la gauche pourtant hors LFI envisagée en octobre prochain, il s'explique.
Ceci me paraît très baroque. Quelle est l'orientation programmatique? Quelle est la clarté dans les valeurs? Certains d'entre eux considèrent qu'il est possible de discuter avec la France insoumise.
Une primaire à laquelle participeraient l'écologiste Marine Tondelier, François Ruffin ou encore potentiellement l'actuel chef des socialistes Olivier Faure. Autant de candidatures de gauche auxquelles il faut ajouter celle possible de Raphaël Glucksmann ou de l'ancien président François Hollande. Cet embouteillage au centre-gauche inquiète Jean-Yves Le Drian, ancien ministre socialiste et sous Emmanuel Macron.
Il y a beaucoup de trous. À un moment donné, il va falloir clarifier.
La candidature de Jérôme Guedj complexifie donc le jeu à gauche, même si l'élu a pour inconvénient une notoriété encore limitée au niveau national.
Les précisions de Raphaël Delvolvé pour RFI.
Toujours en France, Jack Lang, lui, est rattrapé par l'affaire Epstein.
On peut même dire que le président de l'Institut du monde arabe est sous pression. La publication de milliers de documents liés à l'affaire Jeffrey Epstein a révélé ces derniers jours les liens entre l'ancien ministre de la Culture et le financier accusé de crimes sexuels. Malgré tout, hier encore, Jack Lang martelait qu'il ne démissionnera pas de ses fonctions. Pourtant, le socialiste est de plus en plus isolé, Léa Boutin-Rivière.
Alors, on n'a pas...
Léa Boutin-Rivière n'est pas avec nous.
Léa arrive en studio.
Si ça, c'est pas une entrée de star.
Léa Boutin-Rivière, donc le Jack Lang est de plus en plus isolé après les révélations de l'affaire Jeffrey Epstein.
Le dernier coup en date est venu du patron des socialistes lui-même, Olivier Faure, ce matin. Dans un courrier, il juge que Jack Lang devrait réfléchir à quitter la présidence de l'Institut du monde arabe pour protéger le musée, comprendre pour éviter que Jack Lang n'entraîne Lima dans sa chute. En fait, Olivier Faure ne fait que rejoindre la liste de personnalités à avoir lâché l'ancien ministre de la Culture. David Béliard, adjoint écologiste à la mairie de Paris, estime très grave que Jack Lang puisse rester à la tête de Lima. Quant à l'ancien président du musée, Renaud Muselier, il juge que Jack Lang devrait partir plutôt que d'être démissionné de force. À 86 ans, il faut savoir s'en aller, a-t-il taclé. La position de Jack Lang semble d'autant plus difficile à tenir que sa fille, Caroline Lang, elle aussi citée dans les documents, a, elle, quitté ses fonctions à la tête d'un syndicat de producteurs de cinéma et du conseil d'administration d'un festival lillois. À ce stade, son entourage martèle pourtant que Jack Lang n'est pas du genre à baisser les bras. Contacté par nos soins, l'ancien ministre de la Culture n'a pas donné suite.
Merci beaucoup Léa Boutin-Rivière.
Et puis le coup d'envoi des Jeux Olympiques d'hiver, c'est officiellement demain avec la cérémonie au stade San Siro. Mais certaines épreuves ont déjà commencé.
Effectivement, le tournoi olympique de curling a commencé dès hier, ça continue en ce moment d'ailleurs. Aujourd'hui, entrée en lice des spécialistes du Big Air en snowboard masculin. C'est la discipline, vous savez, où on doit faire des figures acrobatiques en s'élançant sur un tremplin. Ce jeudi marque également le début des rencontres de hockey féminin. 10 nations en lice et pour la toute première fois dans ce cercle assez restreint, l'équipe de France qui entend bien faire honneur à une qualification historique obtenue de justesse il y a quelques mois. Notre envoyé spécial, Christophe Diremsian.
Fin mai dernier, l'incertitude laisse la place au bonheur. Deuxième de leur tournoi de qualification olympique trois mois auparavant, les Bleus apprennent en plein stage qu'elles verront bien Milan. La Russie restant exclue des JO, ce graal que la capitaine tricolore Laure Baudrit dédie à tout un hockey féminin qui en rêvait.
Moi j'avais un très très bon groupe d'amis qui a pris sa retraite en 2022. Quand on a finalement su hockey, on est qualifié. La première chose que j'ai pensé, c'est à toutes celles d'avant qui ont bâti cette équipe. On a repris le flambeau et on amène l'équipe aux JO, mais c'est le travail de toutes les générations précédentes.
Une belle récompense aussi pour des joueuses d'ordinaire éloignées des radars médiatiques et qui peinent à vivre de leur sport, contraintes de concilier carrière en club et job d'appoint ou financement participatif. Mais face aux stars professionnelles, pas question de faire de la figuration, la défenseur Sophie Leclerc.
Nous, notre objectif, ça va être surtout de montrer qu'on a complètement mérité notre place au JO. On ne va pas se satisfaire de juste dire qu'on a déjà fait tout ce parcours-là. Le but, c'est quand même de viser haut, d'avoir un objectif, certes, qui va être difficile à atteindre, qui va demander qu'on fasse vraiment à chaque fois des bons matchs pour y arriver. Mais en fait, ouais, on a tous cette compétition en nous et on veut viser haut.
C'est-à-dire au moins les quarts de finale avec la perspective de croiser en forme de défi ultime les Américaines ou les Canadiennes qui se sont partagées tous les titres olympiques depuis l'apparition de la discipline chez les dames en 1998. Christophe Diremsian, Milan Cortina, RFI.
Et le premier match du tour préliminaire des Françaises à Milan face au pays hôte, l'Italie. Donc, c'est à 13h40 TU, c'est dans pas longtemps.
Ouais, merci beaucoup David Delos, on va continuer de parler de sport justement. Bonjour Eric Mamrut.
Bonjour Clotilde, bonjour tout le monde.
On parle de rugby cette fois, le match France-Irlande qui va ouvrir ce soir le tournoi des Six Nations 2026.
Un duel alléchant au Stade de France entre les deux précédents vainqueurs du tournoi. Les Bleus l'ont emporté en 2022 et 2025. Les Irlandais s'imposant dans l'intervalle. Depuis le 15 du trèfle a quelque peu régressé, s'inclinant notamment lourdement à domicile face à l'équipe de France l'an dernier, mais n'allait pas faire dire à son sélectionneur Fabien Galthié qu'elle est forcément la grande favorite de ce tournoi. Lui veut l'aborder sans se projeter ni se rajouter une quelconque pression. Fabien Galthié au micro de Pauline Guillou.
jouons le premier match déjà. Prenons la joie là où elle se trouve, c'est-à-dire la joie se trouve dans les 10 premiers jours du rassemblement, le travail, l'ingratitude du travail qu'on a proposé aux joueurs sous la pluie, dans des conditions très difficiles, avec une demande d'engagement supplémentaire pour essayer de construire notre stratégie. Et puis préparons-nous, dirigeons-nous vers le Stade de France et jouons ce match-là face à l'équipe qui a gagné avant nous 2 tournois. C'est-à-dire qu'il y a depuis 7 ans, il y a 2 équipes qui ont gagné 2 tournois, c'est nous et les Irlandais. Et avant nous, ils font grand chelem et ils gagnent le tournoi. Donc, qui sont les favoris avant ce match d'ouverture? La réponse, jeudi.
Et la réponse ce soir à partir de 20h10, temps universel. Un match d'ouverture du tournoi qui a été avancé afin de laisser la place demain à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques d'hiver 2000 en Cortina. Les autres matchs de cette première journée du tournoi opposeront samedi l'Italie à l'Écosse et l'Angleterre au Pays de Galles.
Du football avec la fin ce soir des huitièmes de finale de la Coupe de France.
Avec pour conclure un face-à-face.
C'est sur le 99.1.
Let's go. HDR.
Le mix des cultures.
Le mix de toutes les cultures. 99.1 FM.
99.1 FM.
Eh bien, mon cher, qu'est-ce que vous en dites ?
Line. Come on, to join you in come, cause there ain't no city like the one I'm from. Bass drum feet, the horns be flowing, second liner in the streets, and so my blowing, say there's no place like home. The N.O. we call it, come one, come all, look at the farthest gone. That lady said, take my hand, it'll be just fine. She said, I would love to join you in the second line. All I need is that beat.
Vous écoutez HDR,
le mix des cultures.
99.1.
Once upon a time, you dressed so fine. Do the bumps of dime in your prime. Then you.
HDR.
Le mix. Keep it going full steam. Sweet to be, sour too nice to be. When on the top guy style, I'm not too keen. Trying to change the world.
HDR. 99.1.
Le mix de toutes les cultures, c'est sur le 99.1.
Vous écoutez HDR 99.1.
Le voilà couché dans mon lit. Il me regarde et il me dit, écroule-toi, donne-moi du nougat. Donne-moi du nougat.
HDR,
le mix de culture
99.1. Vous écoutez HDR 99.1. HDR 99.1. Le mix HDR. C'est sur le
99.1.
Le mix.
Les élections municipales 2026 approchent. Elles auront lieu les dimanches 15 et 22 mars. Votre voix compte.
Pour pouvoir voter, il est indispensable d'être inscrit sur les listes électorales. Vous avez jusqu'au 4 février pour vous inscrire en ligne et jusqu'au 6 février en mairie.
S'inscrire, c'est faire entendre votre voix et participer à la vie de votre commune. Alors, inscrivez-vous dès maintenant.
Salut, c'est Mathieu Morand. Retrouvez-moi tous les jeudis à partir de 20h sur Radio HDR. Et cette saison, on remonte le temps. Chaque semaine, un nouvel épisode de mon émission Hard Time Machine. Un voyage musical sur la planète métal à travers le temps.
Qu'y a-t-il pour votre service ?
Ici Londres, votre émission un mercredi sur deux de 17h à 18h. Venez découvrir les portraits des associations, leur histoire, leur mission, leurs projets et leurs actus. Ici Londres, un mercredi sur deux.
À quelle heure dites-vous ?
De 17h à 18h. C'est sur le 99.1 FM. HDR.
Echo Out Session sur Radio HDR. Le vendredi à 23h. En rediff le lundi à 2h.
DJ Aratek.
Écho-session par DJ Aratek.